Bien. Tout le monde m'entend? Oui, ça a l'air d'aller. Bien, donc, lors de ma dernière conférence, le 13 décembre, on a vu comment une volonté de réformer l'Église avait abouti à toute une série de déchirures dans le christianisme, puis à une stabilisation des différents modèles de réforme, calviniste, luthérienne, anglicane, etc. Et j'avais prévu de commencer par vous projeter la carte qu'on avait vue la dernière fois, alors peut-être qu'on la verra quand même, mais c'était juste en introduction pour se rappeler un peu les différentes zones dans lesquelles le protestantisme s'était diffusé. Mais en fait, ce que je voulais voir aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre avec vous comment ces événements qui se sont déroulés au XVIe siècle, disons entre 1517 et 1560-70, pour l'essentiel, comment ces événements ont pu donner naissance non à une ou des réformes de l'Église, mais à la naissance d'une, voire de plusieurs nouvelles religions ou confessions chrétiennes, en tout cas bien séparées les unes des autres et très opposées les unes aux autres, on le voit bien avec les guerres de religion. Alors, dans un... Voilà, ça... Ça a l'air de pas trop mal se passer.
Attendez, ça vient.
Voilà, je vais mettre. Bon.
Ça y est.
Non.
Il y a la souris là.
Oui. C'est là, oui. Ben, non. Voilà.
Non, c'est parce qu'on a fait démarrer l'ordinateur avant le...
Bon, il faut le...
Ah, peut-être.
Il faut l'arrêter et
le redémarrer. Il faut le redémarrer, ça ne marchera pas sinon.
D'accord. Alors, il est assez long à démarrer, mais tant pis, je vais parler pendant ce temps-là. Bon, alors, pendant que les problèmes d'ordinateur, enfin, de vidéoprojection essayent de se résoudre, donc je vais commencer déjà mon propos. Donc, dans une première partie, je voulais voir comment se construit une identité protestante. Le but des réformateurs, c'était de rompre avec des pratiques de l'Église romaine, pratiques jugées fausses et superstitieuses. Pour cela, il fallait des signes forts. Et pour comprendre cela, on va revenir en arrière, revenir à Genève dans les années 1530 pour voir très concrètement, mais rapidement aussi, comment se fait le passage à la réforme. Ce n'est pas simplement une décision théologique, dire que l'Église romaine a tort et qu'il faut changer certains dogmes. Il y a un certain nombre de pratiques très concrètes qui se produisent. On peut les ranger en trois catégories. Première catégorie, les cérémonies religieuses traditionnelles sont interrompues. On supprime les processions du Saint-Sacrement, on supprime la sonnerie des cloches, les chants d'église qui sont jugés blasphématoires. On permet la consommation de viande en carême, le travail, les jours de fête de saints, etc. Donc tout ce qui marque vraiment le catholicisme, tout cela est supprimé. Deuxième ensemble de mesures, un iconoclasme, d'abord intermittent, plus régulier, et qui finit par devenir systématique à partir de 1535. Iconoclasme qui... plutôt sauvage au début, qui est pris en charge par les autorités par la suite. Il s'agit de détruire toutes les images qui peuvent donner lieu à des dévotions jugées, là encore, fausses et superstitieuses. Cet iconoclasme s'accompagne de profanation des hosties, là encore pour bien montrer qu'une hostie, même consacrée, n'est pas en tant que tel corps du Christ, donc on va essayer de le signifier, on va renverser les autels également, pour supprimer la croyance en la transsubstantiation, donc en l'Eucharistie, telle que le comprennent les catholiques. Il faut donc démontrer par le geste que les pratiques traditionnelles ne sont que superstition, et on va supprimer donc le système rituel et symbolique traditionnel. Troisième temps, on met en place un système rituel alternatif avec la célébration d'une première scène pour le jeudi saint 1533, des baptêmes dès l'année suivante, baptême protestant, et puis, peu à peu, à partir de 1536, on met en place un nouveau système liturgique entièrement centré sur quatre scènes, quatre communions, donc annuelles. On lutte contre toutes les autres fêtes et les pratiques qui leur sont liées. On célèbre Noël non plus le 25 décembre, mais un dimanche, pour bien montrer l'aspect un peu arbitraire du 25 décembre et que les fêtes n'ont lieu que le dimanche. Et les jours ne sont plus désignés par les fêtes de saints. Le temps est donc réorganisé avec un calendrier déconnecté du temps liturgique. Tous les jours sont semblables en dehors des quatre dimanches où se déroule la scène. Il y a donc une véritable laïcisation du temps. Donc on voit bien que ce passage à la réforme... Ce passage à la réforme n'est pas simplement un changement dogmatique, un changement théologique, mais ça s'accompagne de la volonté d'introduire une nouvelle culture, de nouvelles habitudes dans la population genevoise. Et ça se fait également par une instruction obligatoire mise en place du catéchisme à Genève, par des sermons très réguliers, avec très rapidement ces sermons vont devenir obligatoires, l'assistance aux sermons va devenir obligatoire, et en même temps une surveillance, un contrôle des habitants de Genève. Mais en fait, cela va bien au-delà d'un simple remplacement d'idées ou d'habitudes par d'autres, puisque tous les rituels induisent des comportements culturels particuliers, des sensibilités particulières, au point de former une identité particulière et de distinguer ce qu'un historien appelait une frontière invisible, mais de distinguer réellement les catholiques des protestants par leur façon de vivre, de s'habiller, de parler, même de se nourrir, d'ailleurs, dans certains cas. Il y a donc tout un processus de construction d'une identité confessionnelle qui se produit pendant la fin du XVIe et au XVIIe siècle. Alors, on peut énumérer certains des éléments de cette construction et je vais en développer rapidement quelques-uns. Le premier élément, c'est que se multiplient au XVIe et XVIIe siècle les confessions de foi. C'est quelque chose d'assez neuf. C'est-à-dire qu'il y avait des confessions de foi dans le christianisme ancien. Une règle de foi donnée par saint Irénée au IIe siècle, déjà, puis le symbole des apôtres, toujours à la même période, au IIe siècle également, le symbole de Nicée, adopté en 325, complété en 381 au concile de Constantinople, revu 70 ans plus tard au concile de Chalcédoine, et enfin le symbole, ce qu'on appelle le symbole d'Athanase, donc, qui est de la première moitié du VIIe siècle, et puis plus rien. On instruit ensuite les chrétiens en fonction du symbole de Nicée. Donc ce symbole, Nicée revu à Constantinople. un tourne... Alors voilà, on revient un tout petit peu en arrière. Voilà cette carte qu'on avait vue la dernière fois. Alors, un tournant donc est pris vers 1530, enfin en 1530 plus exactement. D'accord.
Et là, pour avancer,
donc un tournant est pris en 1530. Donc cette année-là, Charles Quint convoque ceux qu'on commence à appeler les protestants, donc qui suivent. Enfin, qui se sont révoltés contre l'Église romaine, il les convoque à une assemblée d'empire, la diète d'Augsbourg. Augsbourg, vous l'avez ici. Et ces protestants sont invités à présenter leur foi pour examiner si on peut toujours les considérer comme chrétiens, si c'est une foi chrétienne ou non. Alors, plusieurs confessions sont présentées, donc la confession d'Augsbourg, ce qu'on appelle confession d'Augsbourg par les luthériens, puis une confession pour la ville de Zurich et une autre pour quelques villes d'Allemagne du Sud, Strasbourg, et Constance, Memmingen, Lindau, donc ils présentent leur propre confession. Ces confessions sont jugées non chrétiennes et par, à l'issue de débats entre théologiens, non chrétiennes par les théologiens romains. Et donc la rupture se fait très nettement entre catholicisme et protestantisme. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à la suite de cela, dans la deuxième moitié du XVIe siècle, tous les groupes protestants, par confession, donc calvinistes, anabaptistes, luthériens, anglicans, etc., mais aussi par pays, vont se donner chacun leur confession de foi. Alors, on va revenir au... Voilà, j'en suis à la constitution d'une identité et plus exactement aux premières parties sur les confessions de foi. Alors, je vous lis rapidement, je ne les décrirai pas parce que sinon on en a pour toute la séance rien que cela, mais simplement lire la liste de ces confessions de foi est assez impressionnant. En 1554, on a la confession d'Emden et la confession de Francfort. 1559, la confession de foi française. 1560, confession de foi écossaise. C'est toujours là pour les églises calvinistes. 1561, confession, ce qu'on appelle confession belgica, qui est en fait pour les Pays-Bas. 1562, confession hongroise et confession des Grisons. 1563, l'ordonnance ecclésiastique du Palatinat. Deuxième confession suisse en 1566, l'accord de Sandomir pour la Pologne 1570. Une deuxième confession, les actes des synodes, qu'on appelle actes des synodes d'Emden en 1571, Nassau-Dillenbourg à sa confession en 1578, une deuxième confession écossaise en 1580, 1581, ordonnance ecclésiastique de Middelbourg, une harmonie de la confession de foi de Genève en 1581 également, et puis j'arrête parce que sinon on n'en finirait pas, mais cette accumulation de confessions de foi alors qu'on n'avait rien eu, depuis la première moitié du VIIe siècle, c'est quelque chose de tout à fait impressionnant. Et dans ce que je vous les ai lus là, il n'y a que des confessions de foi calvinistes. Les luthériens avaient leur confession d'Augsbourg, 1530. Les anglicans ont leur propre confession, ce qu'on appelle les 10 articles en 1536, puis les 6 articles... ensuite, on a les 6 articles, mais ils sont plutôt catholiques. Puis toute une série d'autres affirmations de foi qui se terminent par les articles de 1571 qui sont un peu la charte de l'anglicanisme. Les anabaptistes ont eux aussi leur confession de foi, même plusieurs, en 1527, en 1529, en 1540. Bon, l'Église catholique est plus sobre, mais... à l'issue du Concile de Trente, qui se réunit de 1545 à 1563, elle éprouve, elle aussi, malgré tout, le besoin de rédiger une confession de foi, dite confession de Pie IV, donc 1564, et qui résume les principaux décrets du Concile de Trente. On a donc cette accumulation de textes en un siècle, une véritable impression d'écrasement, s'explique par cet éclatement confessionnel. Le développement des confessions de foi, le développement des confessions conduit à préciser toujours plus la doctrine. Et à partir du moment où on se sépare des autres, il faut montrer en quoi on se sépare. Et donc on précise la doctrine en formant une, en écrivant une nouvelle confession de foi. Et ces précisions, qui sont dans les confessions de foi, sont érigées comme juges d'une orthodoxie chrétienne. Si on ne respecte pas ces différences qui sont quelquefois infimes d'une confession à une autre, c'est qu'on n'est pas de la bonne confession. Et du coup, des détails, enfin, ce qui, à nous, peut paraître comme des détails tout à fait infimes, prend une importance considérable. En même temps, la controverse qui est suscitée par ces précisions, parce qu'à partir du moment où on met en place une confession de foi, il y a des gens qui vont s'y opposer. Donc la controverse se déroule, et cette controverse amène à insister justement sur les points qui font l'objet de désaccords, quelle que soit leur importance objective. Donc on peut passer des heures à se disputer sur des choses qui, finalement, même pour les gens de l'époque, n'étaient peut-être pas le fondement de la foi. En ce sens, on peut dire que ces confessions de foi et les controverses qui suivent ont fait naître les différents protestantismes, mais aussi le catholicisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, hein, qui se précise par opposition, justement, aux différents protestantismes. Dans tous les cas, ce phénomène conduit à définir le christianisme non plus tellement comme une conduite, hein, ce n'est plus suivre le Christ, ou plus seulement, c'est quand même encore suivre le Christ, enfin on peut l'espérer, mais c'est plus seulement cela. Le christianisme, ou du moins chaque branche du christianisme, ça devient d'abord l'adhésion à un ensemble de définitions théologiques. Il y a donc une intellectualisation de la religion. Il faut connaître ces confessions de foi, il faut être capable de les professer, de les défendre contre les autres. Donc, religion de plus en plus intellectuelle, et donc processus qui est finalement en partie inévitable à partir du moment où la chrétienté se déchire. Le problème, est évidemment de savoir jusqu'où on peut aller, jusqu'où on peut admettre une pluralité d'opinions théologiques différentes. Et ces différentes confessions de foi, les différences entre elles, sont d'autant mieux connues des contemporains qu'une des nouveautés du temps des réformes, j'en ai dit un mot très rapidement, c'est l'instauration du catéchisme appris par cœur. Le premier catéchisme par question-réponse où on apprend, enfin, le maître pose les questions et on apprend par cœur les réponses, il est fait par Luther. Et à l'imitation de Luther, l'Église catholique, mais l'Église de Genève calviniste et toutes les églises de l'époque vont se lancer dans ce type de catéchisme par question-réponse appris par cœur qui permet de bien mémoriser à la fois le contenu de la foi et la différence avec les autres fois. Deuxième élément qui va permettre de constituer l'identité protestante, c'est la question des rites. Alors, j'ai peut développer le premier point, les confessions de foi, j'irai plus vite sur les rites, enfin, sur les points suivants. On sait qu'à partir de la fin du XVIe et au XVIIe siècle, l'Église catholique développe un rituel fastueux, hein, tout ce rituel de baroque, hein, de la réforme ou contre-réforme catholique, avec la liturgie dominicale, particulièrement mise en valeur, il y a l'adoration du Saint-Sacrement, les processions, les pèlerinages, la vénération des saints, la vénération des reliques, etc. Donc un catholicisme baroque particulièrement visible, auquel s'oppose ce qu'on pourrait appeler une austérité protestante, mais je ne suis pas sûr que le mot soit bien adapté. Ce n'est pas une volonté d'austérité, c'est une autre forme d'expression de la religion. Et on a un rituel, véritable rituel protestant, qui se développe dans les églises luthériennes, mais également calvinistes, avec une liturgie qui est bien fixée. On a des livres de liturgie qui expliquent exactement comment doit se dérouler un culte, avec, dans le cas du calvinisme français, du calvinisme en général, l'importance des psaumes, qui est le chant liturgique par excellence, mais qu'on va aussi chanter au travail, qu'on va chanter dans la rue, et qui devient un véritable symbole identitaire. Quelqu'un qui chante un psaume dans la France du XVIIe siècle, c'est forcément un protestant. Bien des protestants le chantent par piété, mais aussi par provocation. Quand il y a une procession catholique, par exemple, et qu'on est sûr de pouvoir s'échapper au cas où il y a des soldats dans le coin, on va chanter son psaume. Et puis, il y a l'année liturgique calviniste centrée sur les quatre scènes annuelles qu'on va préparer soigneusement. Les membres du consistoire, ce qu'on appelle, j'en ai parlé la dernière fois, les anciens, donc un peu responsables laïcs de la communauté, pour simplifier un peu, qui vont visiter tous les membres de la communauté pour vérifier qu'ils se conduisent comme de bons chrétiens et qu'ils ont donc droit à participer à la scène annuelle. Bon, autre élément de différenciation, d'identité, la question du vocabulaire. Ça peut paraître plus anodin, c'est quelque chose d'assez intéressant. Il y a une volonté dans le protestantisme de revenir aux termes bibliques et de rompre également avec les usages catholiques. Ce qui fait que, progressivement, on abandonne le mot catholique. Les premiers protestants se disaient catholiques, disant que c'est eux les vrais catholiques, par opposition aux catholiques romains qui ne sont pas les bons. Catholique étant, voulant dire, universel théoriquement. Donc on a encore au XVIe siècle un certain nombre d'ouvrages protestants qui disent exprimer la foi catholique. Donc quand on trouve le titre, il faut faire un peu attention pour voir exactement ce qu'il y a dedans. La foi catholique, ce n'est pas forcément celle de Rome. Et puis peu à peu, on peut dire que sur ce plan, les protestants ont perdu la partie. C'est l'Église romaine qui accapare le mot de catholique. Et donc les protestants vont se définir comme la vraie Église, ou l'Église réformée. Et puis le roi de France va les obliger à utiliser le terme d'Église prétendue réformée. Mais bon, ce n'est pas ce qu'ils auraient préféré, évidemment. Mais ces variations sur le mot catholique permettent d'aller à d'autres mots. On a toute une série d'oppositions. Quand les catholiques vont à l'église, je parle de la France ici, hein, ça peut être différent dans d'autres pays. Quand les catholiques vont à l'église, les protestants vont au temple. Ils ne parleront pas d'église. Enfin, il y avait au XVIIe siècle l'église de Châlons, l'église réformée de Châlons, mais ça désignait la communauté. Le bâtiment dans lequel ils se réunissent, c'est le temple. Alors qu'il n'y a plus... qui s'est déplacé un peu, mais peu importe. Le nom qu'on donne au bâtiment, c'est le temple. La messe, ou ce qu'on appelle beaucoup à l'époque le Saint-Sacrifice du côté catholique, c'est désigné comme le culte. Le prêtre n'existe plus, ça devient un pasteur. Il n'y a plus d'Eucharistie, mais il y a une scène. Et on a même des choses plus surprenantes, au moins au XVIe siècle. Au XVIIe, ça tend à changer. Les catholiques vont parler de Jésus ou de Jésus-Christ. Les protestants parleront de Christ, simplement. Là, au XVIIe, XVIIIe, il va y avoir une unification. Mais au début, on se sépare même sur l'appellation du Fils de Dieu. Et quand on a des enfants... Les catholiques vont continuer à utiliser des prénoms de saints comme prénoms donnés aux enfants. Protestants, un certain nombre, le font aussi par tradition, parce qu'on donne généralement comme prénom le prénom du parrain ou de la marraine, qui est de la famille. Donc les prénoms se perpétuent, mais de plus en plus, on cherche à donner des prénoms bibliques. Et donc les Abraham, Esther, Sarah ou autres sont... généralement des protestants. À cela s'ajoute le fait que les protestants, au moins les plus cultivés d'entre eux, lisent assidûment la Bible, mais les autres l'entendent dans les cultes, les sermons, et ils la lisent dans la version publiée à Genève au XVIe siècle. À la fin du XVIIe, ils continuent à utiliser cette version, la fin du XVIe siècle. Ce qui fait qu'ils se mettent à parler, ce qu'on va désigner un peu par dérision, comme le patois de Canaan, qui est un français émaillé d'expressions bibliques, Les comparaisons sont souvent des comparaisons prises à la Bible, ce qui fait très étrange à des oreilles catholiques beaucoup moins habituées à cela. Et ce patois de Canaan se caractérise aussi par des archaïsmes de langage, tels qu'on a des constructions grammaticales du XVIe siècle en plein XVIIe, voire fin du XVIIe siècle. Et donc, on a ce français vieilli, biblique, qui est une langue un peu différente de la langue française courante de cette période. Et donc, on a là un élément, là encore, d'identité qui va différencier les catholiques des protestants. La culture matérielle peut différencier également. Je prends deux exemples que je vais voir peu rapidement, là encore. La question de l'art. Y a-t-il un art protestant et notamment, là encore, je vais partir de à la fois ce que je connais le mieux et ce pourquoi ça pose le plus de problèmes, c'est le calvinisme français qui passe pour particulièrement austère. Hein, contrairement, si on va dans des églises luthériennes du nord de l'Allemagne, on voit des décors qui n'ont rien à envier à un certain nombre d'églises baroques catholiques. En revanche, les temples protestants français passent pour particulièrement austères. Les protestants français passent pour austères, des intérieurs sans décoration, ils sont habillés en noir, etc. Enfin, il y a toute une imagerie. Quand on regarde de près, il faut beaucoup la nuancer. J'ai regardé pas mal d'inventaires après décès, par exemple, de protestants et de catholiques au XVIIe siècle. Si on regarde la couleur des habits, on ne voit pas de différence fondamentale, finalement. Donc, il y a une part de légende là-dedans. Mais il y a des petites différences. Donc, je reviens sur cette question de l'art. D'abord, les artistes protestants, il y a des protestants qui sont doués en peinture, en architecture, qui veulent exercer leur art. Le problème, c'est que le marché est assez restreint. S'ils ne doivent travailler que pour des protestants, ils vont avoir du mal à vivre. Alors, peuvent-ils travailler pour les catholiques ? La discipline des églises réformées interdit d'encourager, de perpétuer les croyances superstitieuses par l'exercice de sa profession. Et donc, théoriquement, un artiste catholique ne doit pas travailler pour l'église catholique. Un sculpteur ne va pas faire une Christ en croix destinée à une église catholique. Bon, ça, c'est la théorie. On a des huguenots qui travaillent pour des catholiques sur des projets ecclésiastiques. Le plus connu, peut-être, est l'architecte Salomon de Brosses, qui a construit le temple de Charenton à Paris, mais qui a aussi édifié le palais du Luxembourg, qui est son œuvre la plus connue, alors qui n'est pas une œuvre religieuse. Mais l'église Saint-Gervais-Saint-Protais à Paris, là, on est dans une église de la réforme catholique construite par un architecte protestant. Un des grands peintres du XVIIe siècle est protestant, Sébastien Bourdon. Sébastien Bourdon s'est formé à Rome. Alors, c'est peut-être pas bien, mais quand on est peintre et qu'on veut côtoyer la grande peinture à l'époque, ben, il faut aller à Rome. Donc, il se forme à Rome et il a exécuté des commandes pour des églises catholiques et des maisons religieuses, donc notamment une crucifixion de Saint-Pierre pour la confrérie des orfèvres de Notre-Dame de Paris. Pour la cathédrale Saint-Pierre de Montpellier, il fait une chute de Simon le magicien. Donc, protestants travaillant pour des protestants, c'est à revoir beaucoup. En fait, ils travaillent quand il y a des marchés, et puis ils s'arrangent avec leur conscience, plus ou moins bien, ça, on n'en sait rien. Inversement, les protestants font appel à des artistes catholiques, y compris pour leurs édifices religieux. L'architecte du temple de Montauban est Pierre de Lévesville, catholique, architecte de, plusieurs cathédrales, Mende, Auch, Nîmes, Toulouse. L'appartenance confessionnelle est donc manifestement moins importante que la compétence professionnelle. Si on entre dans les maisons protestantes et qu'on essaye de voir quels sont les éléments de décor qu'on y trouve. On a des tableaux, des gravures, des estampes. Alors, des études ont été faites sur certaines villes, sur Metz, je travaillais un peu sur Lyon, je vais vous donner plutôt l'exemple de Metz. On constate au XVIIe siècle on constate qu'un peu, plus de la moitié des propriétaires de maisons à Metz ont des peintures chez eux à proportion égale, catholiques et protestants. Protestants comme catholiques ont des peintures. Seul un petit peu plus de peintures chez les catholiques que chez les protestants, mais la différence n'est pas vraiment significative. En revanche, ce qui est intéressant, c'est le sujet des peintures. On a peu de sujets religieux et peu de portraits chez les protestants, alors qu'ils sont très fréquents chez les catholiques. Alors, ce qu'on trouve à Metz se retrouve dans toutes les autres villes protestantes pour les sujets religieux. Pour les portraits, c'est moins évident. Il y a des protestants qui ont beaucoup de portraits chez eux. En revanche, les sujets religieux n'existent pratiquement que chez les catholiques. Et quand on a des sujets religieux chez les protestants, ce sont en grande partie des sujets tirés de l'Ancien Testament, éventuellement du Nouveau, mais pas de vie de saint, ni de sujets, pas de vierge non plus, ou pas de sujets religieux qui sont bien du Nouveau Testament, mais qui pourraient donner lieu à des dévotions comme des crucifixions. Avec, là encore, évidemment, on peut toujours trouver quelques exceptions, mais disons que c'est la tendance générale. Si on entre dans les églises, Calvin n'admettait pas de représentation religieuse. Enfin, dans les églises, justement, c'est les temples pour les... Enfin, très rapidement, ça devient temple, en France en tout cas. Calvin n'admettait pas de représentation religieuse, c'est bien respecté chez les réformés. On a quelques tableaux, mais très peu, et c'est plutôt Moïse donnant les tables de la loi, par exemple. Donc des sujets très précis. Ça ne veut pas dire que les temples soient pauvres, austères. On peut faire aux meilleurs architectes de l'époque. J'ai cité Salomon de Brosse, Pierre de Lévesville, architecte catholique, mais qui fait le grand temple de Montauban. On a même des temples baroques, alors pas en France, mais on a des exemples en Suisse, aux Pays-Bas, baroques, au sens où tous les canons de l'architecture baroque se retrouvent dans ces temples. Donc on a un jeu sur les formes, sur l'organisation de l'espace, qui donne une esthétique particulière aux temples réformés, qui sont conçus plutôt comme des amphithéâtres, comme des lieux d'écoute de la parole, mais à partir de ce changement de forme, qui différencie très nettement, quand on entre dans un temple, différencie très nettement le bâtiment d'une église catholique, on peut avoir quelque chose d'assez joli. Avec justement ces jeux sur les formes, avec des jeux sur la lumière également, la lumière étant abondante puisqu'on abolit les vitraux. Autre point qui différencie les temples protestants des églises catholiques, l'autel majestueux avec retable des églises catholiques ne se retrouve pas dans les temples protestants. Au début, on avait même simplement des tables, mais qu'on pouvait enlever, des tables en bois qu'on pouvait enlever pour les cultes ordinaires. Et puis, peu à peu, en France, c'est resté dans certains pays, mais en France, c'est devenu des tables en pierre qui étaient là à demeure, mais à une place plutôt secondaire par rapport à la chaire, lieu du sermon. Et puis, autre différence importante qui était frappante à l'époque, c'est la présence des bancs. Si vous regardez des tableaux anciens, des tableaux d'église, vous remarquez qu'il n'y a pas de banc dans les églises. On apporte son tabouret, ou on s'assoit par terre, ou on reste debout pour la messe, on circule. Dès le XVIe siècle, pour obliger les gens à écouter le sermon debout pendant une heure, c'est quand même pas très facile. Donc pour les obliger à écouter et à suivre le sermon, on décide d'introduire des bancs. Et là, on a une véritable nouveauté. Les seuls bâtiments religieux de l'époque avec des bancs sont donc les temples protestants. Des différences également, j'en viens à mon point. Je ne sais pas si ça marche. Voilà, ça y est, je l'ai retrouvé. Donc sur l'espace et le temps. Donc, y a-t-il une perception particulière de l'espace et du temps chez les protestants? Il y a, de manière évidente, un refuge de toute sacralisation de l'espace dans le protestantisme, alors qu'on a des espaces sacrés dans le catholicisme. Les églises en premier lieu, mais aussi la réforme catholique va tenter de faire en sorte que les cimetières soient respectés également, et donc d'établir, il y a les sanctuaires, enfin d'établir un certain nombre d'espaces comme étant des espaces sacrés, donc ayant leur charge de sacralité et où les activités profanes n'ont pas lieu d'être. La théologie protestante, Dieu n'est présent dans un espace donné que lorsqu'il y a une communauté priante dans cet espace. Mais c'est la communauté qui rend Dieu priant, qui rend Dieu présent. Ce n'est pas l'espace en lui-même, donc pas d'espace sacré. Ou, plus exactement, il y a peut-être une volonté de rendre l'espace un espace sacré, mais de le rendre momentanément en faisant en sorte que les gens vivent saintement. Donc on sacralise l'espace par son comportement de parfait chrétien, et non pas par des pierres, par la présence ce qu'on appelle la présence réelle, l'exposition du Saint-Sacrement chez les catholiques. Hein, c'est le fait qu'il y ait des vrais chrétiens assemblés ensemble qui sacralisent, qui fait que l'espace est sacré le moment où la communauté est là. Ça a des implications très concrètes, c'est qu'il faut qu'il y ait des vrais chrétiens. D'où l'obligation d'imposer une discipline très stricte dans les cités et dans les campagnes, mais dans la campagne ça marche moins bien parce que c'est plus difficile de surveiller. Et donc on a ce rôle de surveillance du consistoire. Les pasteurs, les anciens surtout, surveillent le comportement des chrétiens, protestants en l'occurrence, au moins dans les villes. Alors c'est plus facile dans les villes où il n'y a que des protestants, évidemment. À partir du moment où les villes sont mixtes, où il y a une minorité de protestants, la surveillance est rendue plus difficile. Mais dans une ville comme Genève, enfin, bon, si on prend les villes suisses, par exemple, qui sont passées au protestantisme, la surveillance est relativement aisée, d'où peut-être cette impression qu'on peut avoir, vue de l'extérieur, de pesanteur morale. Alors je ne sais pas comment c'était vécu. On est dedans, peut-être pas, c'est peut-être pas aussi dur, mais au moins, vu de l'extérieur, ça l'est. Alors, bon, on voit qu'il y a des accommodements quand même qui se sont faits très souvent. L'espace également, donc l'espace est sacralisé quand il y a une communauté pieuse, mais uniquement quand elle est là. Donc il ne doit pas y avoir de signe sacré à demeure dans l'espace. Et donc, une ville qui passe au protestantisme, c'est une ville qui n'a théoriquement plus d'image sacrée. Donc, on n'aura plus de statues dans les rues. On n'aura plus de croix dans les rues. Alors, au XVIe siècle, des vierges sur les maisons ou aux angles. On s'efforce de détruire ça au XVIe siècle. Et les villes qui sont vraiment passées au protestantisme n'ont théoriquement plus ce signe. Donc, il y a une sorte de laïcisation de l'espace qui se produit, au moins, là encore, pour le calvinisme. Les luthériens sont beaucoup plus tolérants de ce point de vue, Luther considérant que la dévotion à une statue est évidemment tout à fait condamnable, mais qu'un bon chrétien peut très bien voir une statue de saint sans s'adresser à cette statue comme si c'était un dieu. Calvin, de ce point de vue, est sans doute plus pessimiste sur les capacités de la nature humaine à échapper à la superstition, et préfère empêcher toute tentation. Vision du temps également, peut-être un peu différente. Un auteur suisse, Maxime Gamard, a développé l'idée que le protestantisme suisse, genevois en particulier, a développé un sens de la ponctualité et de la valeur du temps tout à fait nouveau. Sans la ponctualité qui aurait été provoquée par cette discipline très stricte imposée aux habitants de Genève. On leur impose la participation au sermon. Il faut qu'ils soient à l'heure au sermon et au bout d'un moment, on va les excommunier, même s'ils n'arrivent pas à l'heure au sermon. Mais inversement, le pasteur doit prêcher une heure, mais pas plus, pas moins non plus. Et une des caractéristiques enfin, un objet caractéristique dans les temples réformés, c'est la présence d'un sablier qui est posé sur la chaire et qui permet au pasteur de savoir exactement combien de temps il lui reste pour prêcher. Ça permet aussi aux fidèles de vérifier qu'il n'est pas trop court ou trop long, d'ailleurs. Donc, on a ainsi une assimilation de la valeur de la ponctualité et de la valeur du temps qui se fait peut-être plus précocement dans le protestantisme que dans le catholicisme. Toujours à propos du temps, on a une vision, sur le temps à long terme cette fois, une vision de l'histoire particulière. L'histoire pour les protestants de l'époque qui m'intéresse, donc je le sens sur le 17e, mais je ne suis pas sûr que ce soit totalement faux pour les protestants d'aujourd'hui. C'est une histoire qui commence avec le christianisme primitif, et puis il y a un grand trou, une longue décadence, qu'on fait commencer à une date variable, mais c'est souvent autour de Constantin que se produirait cette décadence. Dans cette période de longue décadence, quelques lumières, des pré-réformateurs, et dans les pré-réformateurs, on va assez vite classer tous les opposants à la papauté. C'est-à-dire, en gros, pratiquement tous ceux que les catholiques considèrent comme des hérétiques au Moyen-Âge deviennent, dans les histoires du christianisme écrites au XVIIe siècle par des protestants, deviennent des pré-réformateurs. Et puis ensuite, donc XVIe siècle, naît la réforme et donc une nouvelle période qui commence. Mais donc une vision de l'histoire qui n'est pas la même que la vision de l'histoire catholique qui, au contraire, elle, valorise le Moyen-Âge. Autre aspect tout à fait intéressant par rapport au temps, le calendrier. Protestants et catholiques n'ont pas le même calendrier, puisque jusqu'en 1582, on vit sur l'ancien calendrier julien, mais qui a 10 jours de retard par rapport au mouvement du soleil. Et donc la réforme est faite en 1582 par un pape, et c'est le problème. Les protestants vont refuser cette réforme. Pas les protestants français, mais ils sont dans un pays catholique, c'était compliqué, il faut en même temps qu'ils affirment leur loyauté au roi, donc eux acceptent. Mais les pays protestants, eux, refusent la réforme du calendrier de 1582. Et ils vont le faire jusqu'en 1700 pour l'essentiel de la Suisse. L'Angleterre, les pays protestants allemands, les pays scandinaves vont attendre le milieu du XVIIIe siècle pour passer au calendrier grégorien, qu'ils appellent d'ailleurs calendrier julien amélioré. En fait, c'est exactement le même, mais bon, on sauve les apparences. Ce qui fait que l'Europe est divisée en deux, d'un pays à l'autre, on a 10 jours d'écart. Et en Allemagne, c'est particulièrement frappant, puisque l'Allemagne est divisée en une multitude de principautés, les unes catholiques, les autres protestantes. Donc on est dans son village, on fait quelques kilomètres. Dans son village catholique, par exemple, on fait quelques kilomètres, on est en territoire protestant, et on vient de perdre 10 jours. Dans l'année, d'autre part, dans les pays calvinistes, on supprime la plupart des fêtes. Pays luthériens et anglicans, on supprime un peu moins, mais supprime également, malgré tout, un certain nombre de fêtes liés au saint catholique. Donc, une année protestante qui ne ressemble pas non plus à l'année catholique. Enfin, j'essaie de rester dans les temps malgré tout, mes deux autres parties sont beaucoup plus courtes, je vous rassure. Enfin, autre élément sur l'identité protestante, l'attitude par rapport au corps. Théologiquement, il n'y a pas dans le protestantisme, d'attitude négative face au corps ou à la sexualité. En même temps, on ne peut pas dire qu'il y ait de changement radical avec le passage à la réforme. Les mentalités changent évidemment très lentement. Et surtout, les réformateurs protestants conservent une anthropologie commune avec le catholicisme, anthropologie dont qui a deux caractéristiques importantes. L'opposition entre le corps et l'âme, hein, le corps qui apparaît comme la prison de l'âme, justement, le corps qui entraîne au péché, alors que l'âme l'entraîne vers Dieu. Puis l'autre caractéristique, c'est l'opposition entre l'homme et la femme et la supériorité de l'homme sur la femme. Ce qui fait que si, en protestantisme, comme il n'y a plus de prêtre avec un caractère sacerdotal qui serait successeur du Christ, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas que le ministère de pasteur ne soit pas donné aussi à des femmes. Concrètement, il faut attendre le XXe siècle pour trouver des femmes pasteurs en France. Et chaque fois qu'une femme prend des initiatives dans le protestantisme, ça arrive au XVIe siècle, à l'époque de Calvin, on retrouve au XVIIIe siècle en France, quand le protestantisme est clandestin, à chaque fois, on leur explique que ce n'est pas vraiment leur rôle. Donc, pas, d'un point de vue théologique, on a peut-être une rupture sur ce plan. Dans la réalité des faits, la rupture va mettre quand même beaucoup de temps à être assimilée. En tout cas, cette anthropologie qui oppose le corps et l'âme et qui, du coup, a une très grande méfiance pour le corps, a deux conséquences importantes pour le protestantisme. C'est le développement du puritanisme. Puritanisme, c'est théoriquement en Angleterre, mais des comportements de type puritain, on les retrouve dans à peu près tous les pays protestants. Et donc, finalement, avec du coup ce paradoxe, c'est un protestantisme qui est, d'un point de vue théologique, est peut-être moins opposé à la sexualité que le catholicisme, et qui, en fait, a des attitudes beaucoup plus négatives, peut-être, tout simplement, parce que l'organisation des communautés protestantes fait que la surveillance des fidèles est beaucoup plus efficace que dans le catholicisme, et donc les normes proposées peuvent être appliquées plus facilement que dans les pays catholiques, avec aussi une pastorale différente, le clergé catholique étant plus accommodant, sans qu'une morale trop austère risque d'éloigner les gens de la religion. Et puis, autre conséquence, c'est alors quelque chose qu'on trouve chez les protestants, comme chez les catholiques d'ailleurs, c'est la lutte contre les attitudes et les tenues dites débauchées, toutes les tenues extravagantes. Je n'ai pas beaucoup de temps, je vous cite quand même quelques extraits de synode protestant, synode de La Rochelle de 1581. Refuse, je le cite, les fards, plissures, houppes, lardoirs, guicrolets, seins ouverts, vertugadins, donc que présenteraient les femmes protestantes de l'époque. À Montauban, 1594, on demande plus de rigueur contre les femmes et les filles qui se fardent et portent le sein ouvert. Les décolletés sont, vous voyez, particulièrement mal vus. Et on retrouve cette dénonciation des excès vestimentaires tout au long du XVIIe. Je termine la citation sur ce thème par le synode de Bourgogne, puisqu'on est en Bourgogne, synode de Bourgogne de 1682. Ce synode, je cite, ordonne très expressément de corriger le luxe qui se remarque dans nos habits. Elle défend, elle c'est la compagnie des pasteurs, défend à toutes sortes de personnes les étoffes d'or et d'argent, le brocart, la guipure, les franges, la broderie, les dentelles, les bracelets, colliers de perles, pendants d'oreilles, les tours de cheveux empruntés, les perruques d'une longueur excessive, le ruban que les femmes mettent au-dessus du front, comme aussi d'avoir la gorge découverte. Bon, inutile de dire que ces prescriptions sont faites au XVIe siècle, on les retrouve à la fin du XVIIe, et quand on a des textes du XVIIIe, on les retrouve aussi. On en déduit que, manifestement, tout le monde ne respecte pas entièrement, mais il semble que, malgré tout, les tenues protestantes soient un peu plus austères que les catholiques, là encore, sans doute, tout simplement parce qu'une surveillance des communautés peut se faire de manière plus efficace. Alors, on voit donc, je crois que l'essentiel de ce que je voulais dire est dit, donc je peux passer plus vite sur la fin. On voit donc qu'il y a une identité qui se crée, identité protestante, mais on pourrait dire la même chose pour l'identité catholique, et puis il faudrait varier ensuite suivant les formes de protestantisme, évidemment. Une identité qui n'a à voir que de manière indirecte avec la théologie. Dans tout ce que j'ai dit, je n'ai pas beaucoup parlé de théologie. Je parle de vêtements, je parle de langage. Bon, les rites, on s'en rapproche un peu, mais d'art. On voit que dans tous les domaines, une différence commence à apparaître entre des gens de confession chrétienne différente. Et ce phénomène va être facilité par ce qu'on appelle, c'est un terme qui vient d'historiographie allemande d'abord, la confessionnalisation de l'Europe. Donc c'est ce deuxième point. Donc la confessionnalisation de l'Europe, ce sera plus clair comme ça. De quoi s'agit-il ? Avec l'éclatement confessionnel du XVIe siècle, les territoires, différents territoires, tendent à se constituer en États monoconfessionnels. C'est-à-dire que chaque État n'a plus qu'une seule religion. C'est en tout cas l'idéal de chaque État. Alors ça échoue en France. Ça échoue en Pologne pour le XVIe siècle, puis Pologne va devenir catholique, mais ça viendra plus tard. À la fin du XVIIe, pendant longtemps, la Pologne est un État multiconfessionnel, comme la France, mais c'est pratiquement les seuls exemples. Ailleurs, on cherche à n'avoir qu'une religion par État. Et comment cela se fait? Je vais vous donner un exemple un peu exotique, pour changer un peu. C'est la Suède. La Suède est un État qui devient luthérien au XVIe siècle. C'est le roi Gustave Vasa, qui règne entre 1528 et 1560, qui reconnaît le luthéranisme à son couronnement en 1528, et il le reconnaît personnellement, et le royaume devient officiellement luthérien en 1544. Il y a une Bible en suédois, qui est imprimée, qui est publiée en 1541, qui va avoir une influence considérable sur les Suédois jusqu'au XIXe siècle. C'est des versions de cette Bible révisée qui vont durer jusqu'au XIXe siècle. Le problème, c'est que dans la dynastie Vasa, on a deux branches, cette branche luthérienne et une branche catholique qui va régner en Pologne, d'où une rivalité entre les Vasa luthériens de Suède et les Vasa catholiques de Pologne. Et des deux côtés, pour renforcer son autorité sur le pays, on va renforcer l'identité confessionnelle. C'est-à-dire, pour apparaître plus suédois, il faudra être plus luthérien. Et inversement, un bon Polonais va devoir être catholique. Autrement dit, le phénomène qui se produit dans sa fin du XVIe et au XVIIe siècle, c'est un renforcement conjoint de l'Église et de l'État, les deux ayant à y gagner. L'Église bénéficie de la protection de l'État et donc peut évangéliser, catéchiser, comme elle l'entend, les sujets, mais inversement, l'État, n'ayant des sujets que d'une seule religion qui en plus, que ce soit le luthéranisme ou les autres, d'ailleurs prône l'obéissance aux autorités, l'État a tout à y gagner, est sûr d'avoir des sujets fidèles et qui vont considérer leur prince ou leur roi, enfin, peu importe la forme politique qui est prise, vont considérer ce prince comme le représentant de Dieu sur terre et représentant d'autant plus qualifié qu'il est de la bonne, entre guillemets, bonne religion. Donc on a ce renforcement à la fois de l'État et à la fois de la religion. L'État soutient la religion soutient l'État. Donc, phénomène que les historiens allemands voient, surtout pour l'Allemagne, les pays scandinaves, mais ça marche assez bien pour d'autres États européens, voient se développer jusque vers le milieu du XVIIe siècle. C'est un peu le modèle que Louis XIV cherche à mettre en place, sauf que c'est anachronique, en révoquant l'édit de Nantes en 1685, du coup, il fait de la France un État entièrement catholique, ce qui est assez logique avec cela, sauf qu'il le fait à une époque où ça ne se fait plus tellement et où les idées de tolérance ont commencé à gagner. Mais c'est du côté catholique, ce que fait l'Espagne. Les rois catholiques, enfin les rois d'Espagne, transforment l'Espagne en expulsant les musulmans, en expulsant les juifs, en étant très vigilants contre toute velléité d'apparition du protestantisme, transforment l'Espagne en un pays très catholique et ils sont légitimés comme champions du catholicisme. Donc la religion leur sert à leurs ambitions politiques et la protection politique sert à la religion. Donc c'est vraiment un phénomène commun à toutes les religions du XVIIe siècle, mais phénomène dont on voit que ça va faciliter le développement et le maintien de l'identité. L'habitant d'un pays va se définir de plus en plus à la fois comme habitant de ce pays et comme professant la religion du pays. Alors pour la France, là encore, ça ne marche pas très bien parce qu'il y a à la fois des catholiques et des protestants au XVIIe. Mais si on prend un État allemand comme le Palatinat, un habitant de Heidelberg va se considérer comme sujet du prince palatin et comme calviniste. Un Saxon se définira comme luthérien et comme sujet du duc de Saxe, etc. On peut le faire pour la plupart des États européens. Donc cela permet donc ce développement des religions qui se constituent avec leur identité séparément les unes des autres, en opposition les unes aux autres, et donc ces religions peuvent se transformer, et je termine rapidement là-dessus, avec deux exemples de transformation, ce qui se passe dans le luthéranisme et ce qui se passe dans le calvinisme. Les églises luthériennes, tout d'abord, la période de la confessionnalisation dont je viens de parler, de la première moitié du XVIIe siècle, c'est aussi ce qu'on appelle, d'un point de vue plus théologique, la période de l'orthodoxie luthérienne, où un véritable dogme luthérien se met en place, où toute une théologie se développe et où on a un phénomène qui ressemble un peu à ce que Luther refusait dans l'Église catholique. C'est-à-dire qu'on n'oublie pas la Bible, mais on élabore une théologie à partir de la Bible, puis on discute de théologie à partir de cette théologie, etc. Et puis la Bible reste en arrière-plan, mais on ne travaille plus directement à partir de la Bible. Il y a toute une scolastique luthérienne qui se met en place avec donc des développements de facultés de théologie, développement donc d'une identité culturelle luthérienne avec un légalisme moral très pesant dans ces territoires. Et par réaction à cela, se développe dans la deuxième moitié du XVIIe ce qu'on appelle le piétisme. Un piétisme qui, au départ, concerne des groupes de fidèles qui décident de se réunir pour lire ensemble la Bible, donc revenir à la Bible par-delà la théologie enseignée. Donc c'est finalement le phénomène qu'a voulu Luther. On peut dire, d'une certaine manière, c'est un retour au Luther, retour à Luther, simplement là on revient sur deux ou trois générations de luthéranisme. Luther, c'était sur plusieurs siècles de développement théologique. Mais donc, on se réunit pour lire la Bible et pour pratiquer une piété active en dehors de tout moralisme. On va vraiment visiter les pauvres, les malades, se conduire réellement comme des chrétiens pieux, d'où ce terme de piétisme. C'est assez vite mal vu des autorités luthériennes, par cette valorisation de la vie chrétienne pas toujours bien contrôlée et par le fait que cela valorise également le rôle des laïcs. Hein, ce ne sont pas des pasteurs qui dirigent tout cela. Enfin, il peut y avoir des pasteurs aussi dans ces groupes, mais ils n'ont pas forcément de position prédominante et donc toute la structure de l'Église risque d'être attaquée par ces pratiques. Alors, dans la plupart des cas, les piétistes reste malgré tout dans l'Église, il y a des accommodements qui se font, et puis dans certains cas, on a des mouvements piétistes qui se détachent de l'Église. Une des caractéristiques de la spiritualité piétiste, c'est la recherche d'un lien avec le Christ. Il faut être conforme au Christ. La véritable piété, c'est être conforme au Christ, et plus exactement au Christ souffrant et rédempteur. Rédempteur, Christ rédempteur, c'est la leçon de Luther, mais il y a une insistance sur la souffrance particulièrement forte, alors, qui peut s'expliquer peut-être tout simplement par les conditions de l'époque. Les tout débuts du piétisme, c'est la fin de la guerre de 30 ans, hein, qui a fait une, et le piétisme se développe pendant la période de reconstruction de l'Allemagne après la guerre de 30 ans, qui a vu disparaître à peu près un tiers de la population allemande. Hein, donc on comprend que la souffrance soit quelque chose de particulièrement parlant pour l'époque. Donc, recherche d'un lien avec ce Christ souffrant et rédempteur. Et donc, le piétisme va apparaître comme un christianisme de conversion. Un bon luthérien piétiste, ce n'est pas simplement quelqu'un qui va au temple tous les dimanches pour écouter son pasteur. Non, c'est quelqu'un qui sent la présence de Dieu en lui, qui sent le salut, qui se sent vraiment uni au Christ souffrant et rédempteur. Donc il faut sentir le salut. Donc un aspect très individuel et donc qui met vraiment l'accent sur cette conversion. Mais du coup, tout le reste devient accessoire. Parce que si on sent le Christ en soi, bah, finalement, aller au sermon du pasteur, c'est bien, mais on pourrait presque s'en passer. Et ça explique les crispations de l'Église luthérienne, évidemment. Mais ça peut aller plus loin que cela, c'est que si on est persuadé de sentir le Christ, de vivre conformément au Christ, on peut continuer à lire la Bible, mais on va la lire par édification sans doute, mais on peut la lire un peu, j'allais dire n'importe comment, c'est-à-dire une étude scientifique de la Bible ne fera pas peur. Ça fait très peur à des catholiques comme Bossuet d'essayer de savoir quand était composée la Bible, si c'est bien Moïse qui a écrit ou non les 5 premiers livres de la Bible, ce qu'on commence à remettre en cause à son époque, lui a très peur de cela. Pour un piétiste, on peut dire n'importe quoi sur la composition de la Bible, sur les contradictions qu'on peut trouver dans la Bible, sur les falsifications qu'il pourrait y avoir. Ah, c'est pas grave, puisque ça ne remet pas en cause l'existence de Dieu, et le fait qu'on puisse vivre en vrai chrétien. La Bible atteste simplement qu'il y a eu des gens qui ont vécu avec Dieu avant nous, donc ça donne des exemples. Ensuite, s'il y a des choses qui sont fausses ou qui ont été transformées, bon, peu importe. De toute façon, on a Dieu en soi. Ce qui fait qu'on n'a rien à craindre d'une étude scientifique de la Bible, d'une étude scientifique de la religion, parce que Dieu est dans le cœur. Et ça explique sans doute que l'Allemagne est le premier pays au XIXe siècle, vous voyez que j'avance beaucoup, à développer dans des facultés de théologie, justement, des études scientifiques sur la Bible et des études scientifiques sur la religion. On va se poser des questions, on va développer la philosophie de la religion, des questions de sociologie de religion par la suite, etc., qu'ailleurs, on a très peur de développer. Parce que, justement, grâce au piétisme, on a réussi à faire la distinction entre la foi personnelle que l'on peut avoir et la Bible, la religion, les églises, qui ont quelque chose à voir, effectivement, avec la foi, mais qui ne sont pas liées de façon aussi intime que dans le catholicisme de la même époque. Du côté calviniste, et je terminerai là, du côté calviniste, on a également une orthodoxie, un développement de la théologie qui atteint son sommet au début du XVIIe siècle, quand on se dispute sur la question de la grâce. C'est à peu près au même moment, enfin tout petit peu avant, les disputes catholiques sur la grâce, vous savez, entre les jansénistes, les jésuites, rappelle peut-être des vieux souvenirs. Les calvinistes ont à peu près les mêmes les mêmes questions. Alors, ça porte plus précisément sur la prédestination, puisqu'on est en contexte calviniste. Est-ce que la prédestination est totale, absolue ou non? Est-ce qu'on peut résister à la grâce ou pas résister? Bon, je vous passe les détails d'un point de vue théologique. C'est le camp le plus dur, si on peut dire, qui l'emporte. Synode d'Ordrecht en 1619, en affirmant qu'on ne peut pas résister à la grâce, que la prédestination est absolue et que ceux qui ne sont pas prédestinés au salut sont par conséquent prédestinés à l'enfer et qu'il n'y a absolument aucun moyen d'y échapper. Bon, position qui n'est pas si tenable que cela, parce qu'il y a des opposants qui subsistent, et peu à peu, on voit au cours du XVIIe siècle un enseignement théologique qui prend ses distances par rapport à cet enseignement très rigoriste, notamment en France. Il y a une académie de théologie réformée qui est l'académie de Saumur, qui cherche à développer une position moyenne, disant que, bien sûr, il n'y a que Dieu qui donne la foi et que s'il ne donne pas la foi, on ne peut pas être sauvé. Mais, en même temps, Dieu appelle tout le monde au salut. Alors, ils ont un peu de mal à concilier les deux, mais on soupçonne qu'ils ne veulent pas vraiment le concilier non plus pour avoir une attitude... ils cherchent une attitude beaucoup plus ouverte, cherchent à contourner un peu ce dogme de Dordrecht très rigoriste. Et peu à peu, la position la plus dure doit céder. Dès le XVIIe siècle en Angleterre, on peut dire que... position beaucoup plus tolérante l'emporte. Et dans les autres pays, c'est à la fin du XVIIe au XVIIIe siècle qu'on renonce peu à peu à l'idée d'une prédestination absolue. Cela permet un dialogue, et je finirai là, un dialogue avec la philosophie de l'époque, fin du XVIIe et XVIIIe siècle, portant sur deux points. Essentiellement, premier point, les théologiens vont distinguer les vérités naturelles, celles que la raison peut atteindre. La grande leçon de la philosophie 17e, 18e, c'est l'importance de la raison. Et donc, cette vérité naturelle que la raison peut atteindre se distingue des vérités surnaturelles qui ne peuvent être connues que par l'Évangile et donc uniquement par ceux à qui Dieu donne la foi. Toute la question est de savoir quelle est la proportion naturelle et de surnaturelle, et la tendance va être de donner de plus en plus à la religion naturelle et religion surnaturelle. Enfin, il y a des vérités surnaturelles qui subsistent, mais on ne voit plus très bien à quoi elles servent à la fin. Et en tout cas, ce corpus de vérités naturelles va permettre de fonder l'idée d'une religion naturelle, qui se développe beaucoup au XVIIIe siècle, notamment avec Jean-Jacques Rousseau, qui est de formation, de sensibilité calviniste, et qui se revendiquera, toujours protestant, même si les pasteurs de Genève ne sont pas tout à fait du même avis. Deuxième point de dialogue avec la philosophie. Philosophie du XVIIIe siècle a une vision très optimiste de l'homme, ce qui est très loin de l'optique de Calvin. Mais pas forcément incompatible finalement. Les théologiens calvinistes, à partir de cette vision optimiste, vont en arriver à l'idée que chaque homme peut interpréter la Bible. Il faut lire la Bible, ça on l'a dit dès le début. Calvin en était persuadé. Assez rapidement, il y a eu un durcissement qui s'est produit. On a dit il faut que chaque foyer puisse lire la Bible. Mais lire la Bible tout seul, ça peut peut-être être dangereux parce qu'on ne sait pas si on est assez instruit pour la comprendre. Donc il vaut mieux que tout le monde la lise avec un pasteur. Et là, avec à la fois progrès de l'éducation au cours du XVIIe, XVIIIe et un plus grand optimiste sur les capacités de la raison humaine, on en revient à cette idée que chaque homme doit lire et peut interpréter la Bible. Et le protestantisme devient à partir de là, s'identifie comme la religion du libre examen, ça semble être un peu une des marques de fabrique du protestantisme. Le protestantisme, c'est le libre examen. Calvin n'aurait sans doute pas été d'accord. Pourquoi auparavant, pour Luther, pour Calvin, il y avait un refus du sens de la Bible fixé par le pape. Il faut qu'on puisse examiner la Bible et non pas croire aveuglément ce que dit le pape. Donc on refuse ce sens au profit de quoi ? Non pas de ce que chacun va trouver dans la Bible, mais au profit du sens que Dieu révèle dans la conscience de tous les croyants. Et avec cette intime conviction que Dieu révèle la même chose à tous les croyants. Donc on peut, à la limite, chacun examiner la Bible, mais on arrivera tous à la même interprétation, puisque c'est dicté directement par Dieu. Et c'est d'ailleurs pour ça que, comme on voit que ça ne marche pas toujours, on se dit assez rapidement qu'il vaut mieux qu'il y ait un pasteur qui soit là, parce que si ça ne marche pas, ben c'est parce qu'on n'était pas assez instruit, on n'a pas été capable de lire correctement. Et donc assez rapidement, il y a eu quand même cette méfiance. Au XVIIIe siècle, on revient sur cette méfiance. Et dans les milieux les plus libéraux, en tout cas, notamment dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, Jean-Jacques Rousseau, là encore, est un des premiers à parler du libre examen de la Bible. Dans les milieux les plus libéraux, on en vient à cette idée que chacun doit lire et interpréter la Bible, qu'on a les capacités d'interpréter correctement la Bible. Voilà, donc ça va donner naissance à ce qu'on appellera au XIXe siècle le protestantisme libéral, qui pourra aller à la fois à des interprétations très savantes, puis à des remises en cause profondes, puisqu'il y a des protestants qui vont se dire athées au XIXe, début XXe siècle, et donc tout un courant encore vivant aujourd'hui, mais qui a à faire face aujourd'hui à d'autres courants théologiques qui ont voulu revenir à Calvin, milieu du XXe siècle, sous l'influence de Karl Barth, et des mouvements peut-être plus attachés à la lettre de la Bible, comme les mouvements, ou à l'influence de l'esprit, comme les mouvements évangéliques, très importants dans le protestantisme aujourd'hui. Voilà, je vous remercie.
Ah, merci beaucoup. Alors, c'est le moment de poser, sinon la première question, au moins la deuxième. Alors, qui veut se lancer ? Il y a des... Oui ?
Oui, alors, le problème, c'est que tous les exemples que vous donnez sont dans l'ordre politique, où là, je suis d'accord avec vous. Donc, globalement, c'est quand même plutôt les hommes, même si on a des contre-exemples, effectivement, en Russie, en Angleterre. La France, c'est vrai que c'est plus ambigu, puisque les femmes ne peuvent arriver au pouvoir que dans le cas de régence. Mais elles peuvent exercer un grand rôle, et puis il y a tout le rôle non officiel, que peuvent avoir les épouses ou maîtresses de roi ou confidentes. Bon, mais c'est dans leur politique. Dès qu'on rentre dans la sphère du sacré, dans le catholicisme en tout cas, ou dans l'orthodoxie, les femmes sont exclues des responsabilités. Théoriquement, c'est là que dans le protestantisme, c'est plus la même chose puisqu'il n'y a plus vraiment de sphère du sacré. Donc les femmes peuvent en principe y entrer. On a constaté, la première femme pasteur, ça doit être aux États-Unis au XIXe siècle, il me semble. Pour la France, il faut attendre le XXe et plutôt la deuxième moitié du XXe siècle pour que ça se développe. Et là, maintenant, c'est devenu très courant. Mais il y a des résistances, mais qui ont à voir avec la religion sans avoir affaire à elle. C'est-à-dire que ce n'est pas des... d'un point de vue théologique, il n'y a aucune justification possible, au moins du point de vue protestant. En même temps, il y a toute une anthropologie qui explique les résistances, qui a quand même un lien avec, avec les questions religieuses. Mais sinon, pour nuancer, pour tout ce que j'ai dit, de toute façon, il y aurait des nuances à faire. Là, j'ai allé vite sur beaucoup de choses, donc il y aurait partout des contre-exemples. J'ai essayé plutôt de donner des lignes générales, disons des tendances.
Une autre question, un autre commentaire? Oui. Je répète la question. Est-ce qu'il y a des protestants chez les orthodoxes vis-à-vis des orthodoxes?
Oui. Alors, bon, là, c'est moins mon domaine. Je pourrais pas. Mais il y a effectivement des mouvements contestataires dans l'orthodoxie.
Il y a les vieux croyants.
Il y a ce qu'on appelle les vieux croyants, oui, issus d'un schisme du XVIIe siècle, il me semble, le Raskol. Il y a eu des tentatives de rapprochement. Il y a un patriarche qui doit être du XVIe siècle, il me semble Cyril Loukakis, qui a tenté un rapprochement avec les protestants. Bon, ça n'a pas bien marché. Théologiquement, il était assez proche. Sur le plan des sensibilités religieuses, je pense qu'entre... bon, il n'y a qu'à voir une liturgie orthodoxe et un culte réformé, on se dit que ça ne peut pas marcher. Mais il y a eu quand même des tentatives de rapprochement théologique entre orthodoxes et réformés. Je pense que c'était plus par opposition commune à la papauté que par véritable proximité. Mais ensuite, des contestations internes à l'orthodoxie, oui. Alors là, bon, il faudrait spécialiser l'orthodoxie pour développer vraiment, mais il y en a eu effectivement. Alors, avec une différence quand même avec l'Église romaine, c'est que l'orthodoxie est moins unie. On a différentes églises orthodoxes, on n'a pas, avec différents patriarches, et puis création de patriarcats au cours de l'histoire, donc le patriarcat de Moscou qui est arrivé beaucoup plus tard, contrairement à l'Église romaine, qui est, au moins théoriquement, même s'il y a aussi des mouvements centrifuges, et puis des contestations internes, mais théoriquement très centralisées.
Bien, donc nous allons rester là. Donc la oui, vous voulez ajouter quelque chose? Comment se fait-il, je répète la question, comment se fait-il que ces bons chrétiens qui sont les protestants ont sombré, ou catholiques, ont sombré dans la violence des guerres de religion? Alors ça, c'est un thème qui est cher à Michel, oui. et qu'on pourra discuter dans une discussion en plus petit comité. Voilà.
Oui, moi, j'ai déjà fait des conférences là-dessus, je ne peux pas alors les résumer en deux minutes, ce sera difficile. Mais... je crois que d'une part, une des raisons, c'est ce que je disais au départ, l'intellectualisation de la religion, c'est-à-dire le fait d'être persuadé que l'essentiel de la religion tient maintenant dans des affirmations doctrinales, et que si... on n'accepte pas ces affirmations doctrinales, on est irrémédiablement damné. Donc il faut absolument, pour le bien de l'autre, l'obliger à admettre la bonne religion. Alors ensuite, à partir du moment où il y a un processus de violence qui se déclenche et qui est lié... et qui est lié à d'autres choses, il y a des intérêts économiques, des intérêts politiques, il y a plein d'autres choses, mais à partir du moment où la violence se déclenche, je crois qu'il y a des phénomènes qui sont plus spécialement religieux, qui tiennent peut-être à l'homme à lui-même, qui font que des comportements de presque animaux par moment se déclenchent. Mais il y a aussi les guerres de religion, c'est des guerres très fortement de religion par l'idéologie, mais avec des intérêts politiques, économiques derrière aussi.
Bien sûr. Alors, Françoise.
Et vous n'avez pas donné d'exemple. Et j'aurais bien aimé avoir des exemples sur ces controverses sur des points de détail, mais comme vous l'avez dit, oui. Mais par exemple, voilà.
On peut se, alors, bon, y aller sur l'Eucharistie, chose là, ce n'est pas des points de détail, mais ça peut être sur... Alors, le purgatoire, ça l'est déjà, c'est déjà un peu moins fondamental. On a des controverses sur le nombre des sacrements, par exemple, sur les prières pour les saints, sur les reliques, sur les pèlerinages. Alors, généralement, les controverses portent sur différents sujets. On commence par des sujets plus fondamentaux, et puis ça dévie sur la dévotion aux reliques, sur des, et qui sont très importants d'un point de vue identitaire.
Au sein même du groupe protestant.
Non, là, c'est entre catholiques et protestants.
Oui, et au sein des groupes protestants, quelle controverse
Non, là, c'est... Il y a beaucoup moins de controverses internes, si ce n'est entre luthériens et calvinistes, portant essentiellement sur consubstantiation, enfin sur la scène, la signification de la scène, hein, présence du Christ ou pas. Voilà, c'est l'essentiel. Mais avec ce phénomène particulier, c'est que généralement, quand on est trop en désaccord dans une église protestante, on fonde une autre église. Hein, il y a un problème de division interne qui. Alors, oui. Oui, 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 et mais qui a donné naissance à des églises différentes.
Voilà, séparées.
D'autres, les églises arméniennes ou des voilà. Églises séparées.
L'arminianisme. Voilà.
Oui.
Voilà.
Donc très vite, c'est plus des controverses internes.
Donc, on remercie tous à nouveau M. Krumenacker de nous donner ces conférences très intéressantes, et je peux vous dire tout de suite qu'il reviendra l'année prochaine. Voilà. Merci.
Voilà, ben je vous. Oui. J'ai pas tout. Non, parce que je suis venu en voiture, donc il me reste les.
Ben,
voilà. Ben,
oui. Non, mais on remplira après. On vous
d'accord.
Vos honoraires et puis on vous remboursera les frais de transport.
D'accord, oui. Bon, je vous. Il y a le nombre de kilomètres. Mais bon, on le trouve sur Mappy ou n'importe où.
Les controverses, on pourrait dire, est-ce que sur la Vierge Marie